Salut Alex.
Salut Charline.
On va élever le niveau aujourd'hui.
Ah bah, hein, ça tombe bien que ce soit vendredi parce que Guillaume est pas là.
Et on reçoit un écrivain.
Ah, mm-hmm. En plus à la sortie d'une semaine de prix littéraire.
Ah oui, alors justement.
On reçoit le prix Goncourt.
Non, on reçoit celui qui l'a pas eu.
Ah bah ça fait beaucoup de monde ça, non?
Non, mais David Diop, il a fait deuxième quand même.
Ah, hein, le premier, il était pas dispo le premier.
Mais pas du tout. Ah. C'est David Diop qu'on voulait.
Ah,
voilà.
Carrément. Voilà.
Ouais. Toutes les émissions, elles reçoivent le gagnant du Goncourt.
Voilà, et nous, logique. Nous on passe à côté, hein, ça, l'équipe des bras cassés.
Mais faut pas le prendre comme ça, Alex.
Non, mais si on reçoit tous les perdant, on va déjà inviter un paquet de tennisman français.
Mais en plus, son livre est magnifique.
Son livre, quel livre?
Bah, son livre, Frères d'âme, c'est sur les tirailleurs sénégalais.
Mais s'il est si beau, son livre, il a au moins une Renaudot.
Là, il était dans les 5 derniers.
Ah, voilà. Le Médicis, il a pas eu.
Là, c'est les 7 derniers.
Ah, bah, le féminin, alors.
Non plus, parce qu'il était dans la 3e sélection. Puis,
on reçoit le Poulidor de la littérature, quoi.
Mais c'est un des meilleurs romans de la rentrée.
Mais même sur Europe 1, ils auraient invité un gagnant. Prix Rintintin du meilleur roman pour animaux, mais un gagnant.
Mais
quoi.
Arrête.
Non, mais peut-être c'est lui qui porte la poisse, hein, ce Diop, là.
Ah bon?
Mais il y en a comme ça, tu leur fais courir le 100 mètres contre des unijambistes et paf, ils se foutent la cheville au démarrage. Il y en a, il y en a.
Mais Alex, tu sais, il y a des perdants magnifiques.
Oui, je le sais. Je suis belge. Et comme Monsieur Diop, j'ai le seum.
Bonjour la France Inter. Vous écoutez la Tartup émission. Voici la crème de l'actualité fouettée par la blague. Misons plutôt sur ce dimanche, le 11 novembre, pour commémorer dignement le centenaire de l'armistice, car de la pérégrination présidentielle sur les traces de 14-18, on ne retiendra pour l'instant que le prix du carburant et une belle connerie sur Pétain.
Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur claque-merde.
Cette semaine, la République des Lettres a décerné les plus prestigieux des 2300 prix littéraires qui existent en France. Autant l'auteur couronné montre toujours une joie plutôt intériorisée, autant le soir même, dans sa maison d'édition... Sur les monuments aux morts de la Grande Guerre, si on observe de près les prénoms qui y figurent, il y a beaucoup plus de Mohamed que de Martin. Il y a aussi quelques rares femmes pour la plupart des infirmières.
Vous voudriez donc que je m'appelle comment ?
Corinne.
Voilà.
Ça faisait longtemps qu'on l'a pas entendu.
C'est toujours un bonheur.
Il n'y a pas beaucoup de Alex, c'était peu usité.
Vous voulez dire qu'on n'est pas courageux, hein, c'est ça? Allez,
Bizarrec avec
laissez-moi vous présenter la belle équipe autour de la table à 17h20. Celui qui est d'accord avec Donald Trump, il y a trop de journalistes de gauche.
Ah oui,
il s'est donc sacrifié pour être ni journaliste, ni de gauche, c'est Pablo Mira.
Salut Alex, salut Charline, et qu'est-ce que ça fait du bien quand Guillaume n'est pas là. Alors aujourd'hui, on va parler de ce phénomène qui peut traumatiser à vie un écolier. Tomber sur Morandini en sortant de l'école? Non, le harcèlement scolaire, évidemment, à tout à l'heure.
Très bien, à 17h30, celle qui, après avoir lancé la Fashion Week de Fribourg, compte s'attaquer à faire du Locle le nouvel Ibiza. C'est vous, Christine Gonzalez, bonjour.
Bonjour, on va parler aujourd'hui avec Romain Gary, on va parler du prix Goncourt, bien sûr, qui nous emmerde depuis, 115 ans.
Bon. Les prochaines 20 000 années seront très difficiles.
Ah oui, c'est rassurant. 17h40, celle qui intellectualise le monde avec apaisement et finesse. C'est donc l'exact opposé de Cyril Hanouna. C'est Isabelle Sorande, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline. Ben aujourd'hui, je vais chroniquer le livre de notre invité.
Très bien. Et à 17h55, Barbara disait « La voix est la musique de l'âme ». Eh bien, il doit avoir l'âme bien aiguë, Frédéric Fromet, qui viendra nous voir.
Et voici celui qui est attablé avec nous. Mais pour vous, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
David Diop.
Oui.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Bienvenue David Diop.
Désolé.
Merci.
Désolé.
Vous êtes reçu comme un roi là quand même, c'est vrai.
J'ai le sentiment en effet d'être en majesté.
On a annulé le gagnant, je vous jure.
Vous publiez donc Frères d'âme, roman paru au Seuil. Ça s'est joué à un cheveu, parce que c'est quand même au quatrième tour, je pense, que le choix s'est porté sur le livre de Nicolas Mathieu, qu'on recevra ultérieurement.
Beaucoup plus loin.
Ouais, on l'a mis loin. Voilà.
Mais il y a combien de tours? Parce que ça me paraît
ça
énorme.
Dépend, ça dépend.
Ça, ils sont d'accord ou pas, hein. c'est aussi simple que ça, ça peut se jouer au premier tour.
Moins ils sont d'accord, plus ils picolent, plus ils boivent, et à la fin, c'est pour ça que
ça
le résultat,
on n'est pas sûr. Ça joue à la courte paille ou pas sur le dernier tour.
David Diop, ce magnifique roman, on avait envie de vous recevoir, vous, et de le mettre à l'honneur aussi. Vous avez choisi un récit intime. Votre personnage est un tirailleur sénégalais pendant la Grande Guerre. Il a suivi son ami Mademba. Et le roman commence avec Mademba qui est touchée mortellement, qui souffre, qui agonise. Et Alpha, le personnage, ne parvient pas à abréger ses souffrances. Et Mademba le supplie une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et il finit par le soulager. Mais il se rend compte que finalement, il est peut-être plus humain avec l'ennemi qu'il tue de façon nette qu'avec son ami. Et là, démarre ce roman, un récit donc intime à la première personne où on est dans la tête du personnage du tirailleur sénégalais. Vous avez lu beaucoup de lettres de Poilu, j'imagine, pour arriver à ce degré d'intimité avec le récit. Est-ce qu'il existe aussi des lettres de tirailleurs sénégalais ?
Oui, mais ce sont pas des lettres qui révèlent une intimité avec la guerre. Ce sont des lettres administratives pour demander des soldes qui ne sont pas payés à temps ou des choses vraiment très très matérielles. Il n'y a aucune intimité des soldats accessible. En tout cas, c'est ce que disent les historiens. J'avais lu un livre de Amadou Ampateba qui s'appelle Amkoulol l'enfant Peul, qui dit qu'il y a un endroit au Mali où il y a des effets de tirailleurs sénégalais. J'ai imaginé qu'il pouvait y avoir des lettres. Et ce que je voulais, c'était retrouver l'intensité émotionnelle que j'avais perçue à la lecture des lettres de Poilu. Et je voulais essayer d'imaginer le rapport d'un tirailleur sénégalais à cette violence incommensurable, un paysan sénégalais, face à une guerre usinière, comme dit Blaise Sandrars. Et j'ai voulu vraiment trouver quelque chose, un moyen, un outil, un biais littéraire, pour accéder à une intimité, et donc j'ai choisi de traduire un flux de conscience qui me permettait de dépasser les barrières de la pudeur, du surmoi, et entrer véritablement dans la tête d'un tirailleur sénégalais.
C'est à tel point réussi qu'on a... Moi, je l'ai lu d'une traite, j'ai pas pu le lâcher, ce roman. Vous avez aussi lu Paroles de Poilu, je pense, c'est là qu'a été le déclic.
C'est le livre de l'historien Guénaud. Je crois qu'il avait fait appel à tous les Français et beaucoup ont envoyé des lettres. Et ces lettres sont tellement émouvantes parce qu'elles sont écrites par des jeunes gens de 20 ans qui ont passé quelques heures, parfois quelques jours, sur ce qu'on appelle le no man's land, entre les lignes, et qui sont secourus au bout d'un moment et qui racontent dans leurs lettres qu'ils sont survivants. Et souvent, quand leur famille reçoit les lettres, eh bien, ils sont morts. Et donc, c'est des lettres qui ont une intensité émotionnelle très grande. Et cette violence que j'ai voulu inscrire dans le texte, c'était une sorte de réponse à la violence que j'ai ressentie à la lecture de ces lettres. J'ai voulu la répercuter, en fait, dans ce texte, pour être vrai, de ce point de vue-là, émotionnellement. Voilà pourquoi j'ai utilisé ce biais-là.
L'usage du coupe-coupe est autorisé. C'est-à-dire que le personnage, il va à la guerre, il va dans l'assaut et au corps à corps avec son coupe-coupe. Oui. Il était autorisé par l'armée française, mais comment ça se fait ça ?
Ça faisait partie de l'équipement militaire qui était tout à fait admis par l'armée française pour effrayer l'ennemi. Le coupe-coupe servait à nettoyer les tranchées des Allemands. Et les Allemands avaient très peur, en fait, des tirailleurs sénégalais parce que ils portaient ce coupe-coupe et ils achevaient les ennemis avec ce coupe-coupe. Et l'armée française et la propagande, je parle de la propagande, ont joué sur cette terreur. Et la propagande allemande s'est bien retournée contre la propagande française en assimilant tous ces tirailleurs à des sauvages. Et on a des caricatures, on peut les voir dans des journaux, en 1916, des caricatures de journaux à Berlin, où on voit le tirailleur sénégalais avec son coupe-coupe, un rictus de sauvage, des têtes de mort attachées à la ceinture. Et j'ai voulu, dans ce texte, dans Frères d'âme, déjouer en fait cette propagande. Le tirailleur, il est pris entre deux feux, si j'ose dire, entre la propagande française et la propagande allemande. Et c'est pour ça que je me suis créé un personnage qui assume sa violence et sa sauvagerie.
C'est donc David Diop, frère d'âme, paru au Seuil, sur ce tirailleur sénégalais, vous dites agriculteur, qui arrive sur, normalement, la terre le nourrit. Et là, c'est une terre qui, vous dites, n'appartient à personne et qui sème la mort.
Oui, c'est une terre où plus rien ne pousse. Mmh. C'est une aberration pour un paysan, une terre qui ne donne rien. Une terre ravagée, une terre où les arbres sont du bois, deviennent du bois sec, et où en fait tout ce qui est planté en terre, c'est des gros grains de métal.
David Diop avec nous jusqu'à 18h. The Selecteur on my radio, et on revient avec David Diop. Il est 17h20 à Toulouse et à Pau, où David Diop, l'auteur de Frères d'âme, est professeur de littérature à l'université, exact ?
Oui, de littérature du 18e siècle.
David Diop avec nous, et autour de lui ?
Eh bien, il y a Pablo Mira, il y a Christine Gonzalez et Isabelle Sorrent, dans l'ordre d'apparition.
Ainsi que le fameux journal tant attendu.
Quand tu m'as dit que t'étais peut-être un tocard, je t'ai pas cru, mais finalement, je crois bien que c'est toi qui as raison.
Le journal de presque 17h17.
Tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau.
Et on commence par les titres.
C'est aujourd'hui l'anniversaire de la mort du général de Gaulle.
Oui, l'équivalent de la fête des pères pour les hommes politiques de la droite et du centre.
Emmanuel Macron a annoncé une baisse drastique du coût du permis de conduire.
Oui, bientôt ça coûtera moins cher de passer son permis que de faire son premier plein quand tu l'auras obtenu.
Et les brèves ?
Oui, c'est mon devoir de mémoire à moi pour que les brèves ne tombent pas dans l'oubli. 9 novembre, l'anniversaire de la mort de Charles de Gaulle.
Et comme chaque année, on a droit à un défilé de politique à colomber les deux églises pour rendre hommage au général et revendiquer une filiation.
C'est marrant de voir tous les politiques faire leur Jeannette Bougrabe.
En France, jusqu'à 8 ans de prison ont été requis contre la filière djihadiste de Roubaix. La filière djihadiste de Roubaix.
Oui, j'avais bien compris. Mais c'est quoi qu'un djihadiste du Pas-de-Calais ? Non, c'est un djihadiste qui, une fois au paradis, il espère qu'il va avoir 72 cousines. C'est quoi le...
International à présent. Donald Trump est toujours jugé dangereux, mais il est davantage populaire auprès des Français.
Eh oui, ça c'est l'effet Macron. Donald Trump est populaire en dépit de ses choix funestes.
Trump qui sera à Paris ce week-end pour les cérémonies du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.
Espérons que ça lui passera l'envie de tenter tous les deux jours d'en démarrer la troisième.
Sans transition, Les actes antisémites sont en très forte hausse sur les 9 premiers mois de l'année, avec plus 69%.
Plus 69%, c'est un pétain de problème, ça, quand même.
Économie. Pour obliger Ryanair à rembourser des subventions, l'aviation civile a saisi un de leurs avions à Bordeaux.
C'est ça, la bonne idée.
Hein?
Ben, il faudrait peut-être kidnapper un enfant de Pénélope et François Fillon, comme ça, ils vont rendre l'argent. C'est ça qu'il faut faire.
Alors, traversons la frontière.
Oui, alors là, vous allez pouvoir confirmer Christine Gonzalez, mais apparemment, grosse polémique en Suisse.
Et oui, ah ils bon vont devoir se prononcer, les Suisses, pour ou contre les vaches à cornes.
Et oui, absolument. Elle a fait le geste.
C'est un vrai débat.
C'est là qu'on voit que le pays va bien, quand même.
Allez, allons en Belgique, à Seraing. Excédé par les échappements de la voiture qui le précède au drive-in d'un fast-food, il sort son arme et tire.
Voilà, en matière d'écologie radicale, José Bové est une petite bite à côté de cet homme.
Sport, oui. Hier, envoyé spécial a révélé qu'une clause permet aux joueurs du PSG de
Neymar
gagner jusqu'à 375 000 euros par mois pour saluer les fans.
Et oui, et je peux vous dire sans enquêter que cette clause ne se trouve pas dans le contrat des garçons de café parisiens.
Elle est brève.
Elle est brève. Avec 340 000 visiteurs, l'exposition Un T-Rex à Paris fait un carton plein. Mmh. Et encore, si vous avez aimé celle-là, vous adorez Un colon à la mairie de Lyon qui devrait connaître le même succès.
La dernière.
Alors écoutez, c'est à Rouen. Les policiers lui débloquent une vertèbre en l'interpellant. Il leur offre des chocolats.
La folie.
Et on voit le Camoulox.
Camoulox. Et on va bientôt apprendre que le 1er mai, Alexandre Benalla ne se faisait pas passer pour un policier, mais pour un ostéopathe.
Merci Alex Gizorek.
De rien.
En compagnie de David Diop, qui avec Frères d'âme au seuil est passé à ça du Goncourt. Mais vous avez eu le Boncourt, c'est-à-dire le prix Goncourt de Biarritz, qui est toujours décerné 10 minutes avant le Goncourt. Vous savez, ils sont sûrs qu'ils n'ont pas le gars sur place, mais vous allez aller le chercher.
Ah oui, oui, je suis un voisin, je ne suis pas loin, donc je vais y aller.
C'est
à
vrai,
Biarritz.
Alors David Diop, cette semaine, le président a donc sillonné les hauts lieux de mémoire de la Grande Guerre, où à la rencontre des Français, il a pu commémorer le prix de l'essence, et au contact des militaires, il a pu commémorer Pétain. Donc, on va essentiellement donc miser plutôt sur dimanche, hein, sur le 11 novembre, pour retrouver un petit peu de dignité. En tout cas, une fois rentré à Paris, Macron et toute l'équipe qui l'a suivi a pu souffler.
Eh bien, mes chers amis, je trinque à la fin de cette tournée.
Et moi, je tiens à remercier la production pour m'avoir offert mon premier hôtel 5 étoiles ce soir.
Ah, eh ben moi, vous savez quoi? Ça m'est égal. Du moment que je suis avec vous, 5 étoiles, 1 étoile.
Tant qu'on ne te la colle pas sur la poitrine.
Un extrait du film Coexister de Fabrice Eboué. Alors, David Diop, d'ailleurs, vous qui êtes d'abord professeur de littérature à l'université de Pau et écrivain, cette fameuse locution qu'on entend depuis lundi et que les médias répètent en boucle à satiété, cette fameuse itinérance mémorielle, choisie donc par l'Élysée et reproduite dans tous les médias, est-ce que c'est correct? Ça veut dire quelque chose, cette histoire?
Alors, je suis pas un spécialiste de ce mot. C'est un mot qui signifie peut-être qu'il y a un itinéraire, mais ça rime avec errance, donc c'est un peu compliqué comprendre comme un mot positif pour décrire finalement un périple. Mm-hmm. Donc, je sais pas, mais bon. Et puis peut-être que c'est un mot peut-être un peu savant, qui ne parle pas trop aux gens. Donc,
il y aurait plutôt des choses... Alors, il y a aussi une forme de répétition automatique. L'Élysée a dit, le président fait une itinérance mémorielle.
Mais ils ont cherché à le définir ou ils l'ont juste balancé comme ça?
Non, voilà.
Ils mettent des mots à côté d'autres et
ils donc, voilà, c'est un mot qui est reproduit. Il existe quand même des synonymes ou d'autres moyens peut-être d'en parler. Peut-être Isabelle Sorand, vous avez travaillé avec notre stagiaire Paul Plumet, vous avez des propositions
à
faire?
Oui, alors on avait vagabondage de la mémoire, divers vagation sensorielle, déambulation pour le souvenir.
Le pétin tour aussi peut-être.
Oui, le pétin tour ou sur les traces.
D'accord. Alors, David Diop, il y a le conseil scientifique du centenaire qui déplore un gâchis à cause de cette polémique sur Pétain, un gâchis dans un contexte de régression polémique du débat public. Et ça ne concerne pas que Emmanuel Macron, il y a aussi Laurent Wauquiez qui a réclamé dans Le Monde des commémorations militaires. Il y a un cadre des Insoumis dans Marianne qui a écrit un texte contre l'Allemagne. Et donc les scientifiques et ceux qui sont chargés d'organiser ces commémorations sont peinés que ce qui doit servir à expliquer la complexité des choses et à se remémorer l'histoire soit comme ça pollué. Quelle est votre vision des choses? Comment vous avez vu un peu cette semaine? Même si pour vous, j'imagine qu'elle était quand même consacrée aux différents prix
non,
littéraires.
Je lis les journaux. En fait, juste après, enfin, le 11 novembre, c'était pas une fête militaire. C'était en 18, un soulagement général, en tout cas du côté des Alliés. C'était un moment aussi de recueillement, de deuil. Mais c'était pas une fête qui était destinée aux armées, à la victoire. C'était vraiment un soulagement général. Et en fait, l'histoire du 11 novembre, elle évolue peut-être vers, d'après ce que disent certains historiens, une commémoration des armées, des victoires, mais c'est un peu plus tardif. Et j'ai été très impressionné aussi de lire un historien qui disait que, alors le 14 juillet de l'année suivante, a vu défiler d'abord tous les mutilés de guerre, tous ceux qui revenaient de la guerre sur les Champs-Élysées. Et il a été dit que si tous les morts avaient dû défiler, les Français, ce défilé aurait duré 12 jours et 12 nuits. Et ça m'a frappé. Ouais, c'est une image qui parle. Hein,
qui vaut beaucoup de discours.
Qui vaut beaucoup de discours. Un million de morts, c'est abstrait. Mais ce défilé de fantômes, c'est pour moi ce qui devrait être le cœur du 11 novembre. C'est-à-dire une fête, mais triste, et pas une victoire des armées. Tout le monde a perdu. Les deux camps ont perdu. Ils ont perdu une grande partie de leur jeunesse.
Et cette semaine, pour l'instant, est-ce que les tirailleurs sénégalais ont eu leur moment d'hommage? On attend bien sûr dimanche, où ils seront évidemment
célébrés. Oui, il y a eu un musée des tirailleurs sénégalais qui a été inauguré le 6 novembre à Reims, je crois. Et c'est mon ami Alain Mabonkou qui a été invité à parler à ce moment. Donc non, les tirailleurs ne sont pas oubliés. En tout cas, ils ont aussi leur mémoire et leur musée. C'est que je trouve être une bonne chose.
Et vous leur rendez hommage et on peut les approcher au plus près dans votre roman qu'on a adoré et sur lequel Isabelle Sorrente va revenir tout à l'heure. David Diop, Frère d'âme, paru au Seuil. Il est 17h30 déjà sur France Inter. C'est l'heure de passer la parole à celui qui d'habitude nous gâche le mercredi. Et là, il a décidé de nous gâcher notre vendredi.
C'est pour que le week-end ressorte un peu plus.
C'est Pablo Mira, oui, le soulagement sera double ce soir. Ouais. Et Pablo, vous revenez sur la journée mondiale contre le harcèlement qui s'est tenue hier jeudi 8 novembre.
Oui, harcèlement scolaire, oui Charline. Menaces, insultes, moqueries, acharnement, remarques blessantes et cela tous les jours de la semaine, c'est terrible. Nos écoles ressemblent de plus en plus à une émission de Cyril Hanouna. Un harcèlement scolaire, il faut le savoir, qui est la deuxième cause. La deuxième cause de souffrance à l'école après le fait d'aller à l'école. Évidemment, c'est simple. C'est un phénomène de grave ampleur, puisque un enfant sur dix en primaire souffre de harcèlement. Oui, vous avez bien entendu, un enfant sur dix est traité comme un prof de Créteil. Un problème qui gangrène donc vraiment le système scolaire, même si faut avouer que le harcèlement peut avoir des effets positifs. Évidemment, les insultes quotidiennes, c'est pas facile à gérer, mais se faire insulter tous les jours, pour moi, déjà, ça s'appelle pas du harcèlement, ça s'appelle l'itinérance présidentielle, pour le coup. Et puis réfléchissez un tout petit peu, s'il vous plaît, deux secondes, réfléchissez un peu. Si on empêche les enfants d'être harcelés à l'école, comment voulez-vous qu'ils soient correctement préparés au harcèlement qu'ils vont vivre en entreprise? Quand vous voyez un élève en larmes au milieu de la cour de récré, moi, ce que je vois, c'est un futur salarié déjà prêt à bosser chez Amazon. Donc, le sujet du harcèlement scolaire, si vous inquiète vraiment, je vais vous proposer quand même quelques solutions pour lutter contre le harcèlement. Alors, je me permets un tout petit coup de pub, Charline, mais c'est pour la bonne cause, car afin d'aider les enfants harcelés, je vais organiser des stages pour apprendre aux enfants à avoir de la répartie. Allez-y, Charline, je vais vous montrer. Prenez le rôle du harceleur, allez-y, oui. Dites-moi un truc méchant, n'importe quoi, comme ça, je vais vous montrer comment on mouche un harceleur.
Il est vraiment très très moche, votre costume, Pablo.
Ah ouais? Eh ben, bon, il est pas au point le stage, il est pas au point, mais je garantis aux parents que ce seront 1000 euros qui seront bien placés. En attendant, si vous souhaitez régler le problème sans mon aide peu onéreuse, hein, il faut dire ce qui est, la première chose à faire, c'est apprendre à repérer les symptômes du harcèlement chez l'enfant. Déjà, regarder sa façon de s'habiller. Par exemple, s'il met des vêtements passe-partout pour ne pas se faire remarquer. Et là, ici, dans le studio, c'est le soulagement, car on se dit qu'Alex n'a jamais, mais alors jamais, été harcelé de toute sa vie. Belle nouvelle. Apprenez aussi à différencier les différentes formes de harcèlement qui rendent vos enfants dépressifs, que ce soit les insultes, le racket ou les cours d'allemand. Bon, à savoir également, être ignoré par les autres, être isolé, c'est aussi une forme de harcèlement. Et là aussi, il est temps que les Français et les Françaises arrêtent d'harceler les programmes d'Europe 1. Ensuite, pour lutter efficacement contre ce problème, les spécialistes conseillent, certains spécialistes conseillent aux enfants harcelés de s'inscrire aux arts martiaux. Comme ça, ils pourront se défendre, mettre KO les 4-5 caïds qui les embêtent, devenir les héros de l'école, puis se réveiller, aller vraiment à l'école et comprendre que leur ceinture jaune ne sert à rien du tout. C'est pour ça que moi, j'ai décidé pour le coup d'inscrire mes filles à un vrai sport de combat. J'ai décidé de les inscrire, oui, Charline, à la boxe anglaise, la boxe, la bonne vieille bagarre.
Mais Pablo, enfin, vous n'avez pas peur qu'elles se prennent des coups, que leur visage soit, je ne sais pas moi, abîmé, déformé?
Oh non, Charline, l'ADN de ma compagne et le mien se sont déjà occupés de cette partie-là. Croyez-moi, la boxe ne peut qu'arranger les choses. Alors attention, un petit conseil quand même, si on vous harcèle, ne commencez jamais un combat si vous n'êtes pas sûr à 100% de le gagner. Par exemple, Alex, ne vous battez jamais avec personne. Même pas contre un écureuil.
C'est prévu.
Une gerbille tétraplégique à la rigueur. Là, oui, vous pouvez tenter, mais jouer la sécurité. Pour conclure, un chiffre. Malgré les témoignages, malgré les prises de conscience, le harcèlement scolaire continue de faire 700 000 victimes par an. Et moi, ces enfants, je leur dis, ne vous inquiétez pas. Vous pensez peut-être que tout le monde vous déteste aujourd'hui, mais avec le temps, vous verrez qu'il est possible d'être aimé, car croyez-moi, si le maréchal Pétain y est arrivé cette semaine, alors vous aussi, il y a de l'espoir. Allez, salut.
Merci Pablo Mira, et je profite de votre présence pour...
Oh là, oui, de double promo, dis
donc. Et dire que l'almanach 2019 d'Hugorafi est paru chez Flammarion.
Avec des vrais morceaux d'almanach dedans, je crois. Hein.
Jeudi, et Delgrès sera bientôt en live à France Inter en concert double affiche avec Miossec. Soyez donc vigilants. Il est 17h37, vous écoutez Par Jupiter. C'est David Diop, l'écrivain, notre invité, écrivain et professeur à l'université de Pau. On va revenir tout à l'heure sur votre magnifique roman Frères d'âme paru au Seuil avec Christine, non, avec Isabelle Sorrente, justement, avant. C'est la Suisse représente Christine Gonzalez.
Cette semaine est tombé le prix Goncourt. Vous le savez, c'est donc Actes Sud qui a remporté le pactole. Et l'écrivain Nicolas Mathieu, lui, sera une star, en tout cas jusqu'à Noël. Et David Diop, ben non. Le cirque du Goncourt...
Sont riches.
C'est un cirque, le Goncourt. Et moi, je suis très contente que vous ne l'ayez pas gagné. Franchement, c'est une tare. Ça fait plus d'un siècle que ça dure. Mais celui qui nous aura vraiment fait marrer en gagnant deux fois le Goncourt, alors que c'est interdit, c'est Romain Gary.
Oui.
Romain Gary ?
Oui.
Oui, bonjour. En fait, j'étais sur le point de parler de l'anecdote Émile Ajar.
Ouais.
Émile Ajar ?
Ouais.
Émile Ajar ?
Ouais.
Non, mais Romain Gary, ça sert à rien de vous faire passer pour Émile Ajar. Hein.
Non. Non.
D'accord. Vous parlez à double maintenant.
Oui, oui.
Non, Romain Gary, en fait, ça sert à rien de faire semblant. Une fois que vous étiez mort, tout le monde a su qu'Émile Ajar, c'était vous. Donc ça fait 38 ans qu'on est au courant, là.
La merde.
Ouais. Deux Goncourt, vous avez fait fort quand même.
Et c'est peut-être manquer de modestie. Je dois dire que je m'en targue.
Vous connaissez le cru 2018, Nicolas Mathieu ?
Ce petit misérable ne m'intéresse pas.
Bon, Bernard Pivot en dit du bien.
C'est un arriviste escroc-monde.
Qui, Bernard Pivot ?
Oui, c'est un minable.
Bon, moi, je le trouve plutôt spirituel sur Twitter.
Je dis que la plus grande force spirituelle de tous les temps, c'est la connerie.
Cette phrase-là, vous l'avez dite dans Chien blanc.
Oui.
Ouais. Et il y a même eu un film adapté de ce livre.
Il y a beaucoup de mauvais films tirés de mes livres.
Ah, vous n'avez pas aimé non plus La promesse de l'aube, sortie l'année dernière, avec Pierre Ninet qui joue votre rôle ?
Non.
Pas aimé du tout ?
Je ne suis pas le seul.
Ouais, mais j'ai l'impression que vous n'aimez pas trop qu'on touche à vos livres.
On fera tout ce qu'on voudra de mes œuvres, et quand on voit ce que les metteurs en scène modernes font au théâtre des grandes œuvres du répertoire, comment ils leur pissent et chient dessus pour se faire plaisir, alors vous pensez bien que j'aurais mauvaise grâce à attendre qu'ils viennent me pisser et me chier dessus.
Bien. Écoutez, on revient au sujet du jour, si vous le voulez bien.
Alors là, nous avons affaire à quelque chose d'assez désagréable et d'assez affligeant pour moi. Et je vous sais gré, d'ailleurs, de me permettre d'en parler.
Parler de quoi ?
Le prix Goncourt.
Ah, celui que n'a pas gagné notre invité.
Vous savez ce qui caractérise le talent ?
Non.
On n'en a jamais assez.
Et vous savez, ce qui, moi, m'afflige avec le Goncourt ?
Non.
C'est que 9 fois sur 10, c'est un homme qui le gagne.
Que voulez-vous que j'y fasse ?
Ben, rien.
Oh, rien ?
Oui, rien.
Oh, rien.
Oui, mais je sais, au fond, Romain Gary, vous pensez comme moi.
Je ne critique pas les hommes. Je critique 2000 ans de civilisation qui fait peser sur l'homme une hypothèque de fausse virilité, de fanfaronnade, de coq.
C'est vrai que vous êtes féministe, vous, hein ?
Je crois que c'est un des grands problèmes de ce temps, cet abus de la virilité, cette intoxication virile par le machismo et par des fanfaronnades de virilité et de recherche de substituts virils dont finalement la bombe nucléaire n'est qu'un exemple.
Eh bien vous savez quoi, un homme qui parle comme ça, enfin pardonnez-moi l'expression, mais c'est un homme qui a des couilles, ouais, et pas que, hein, le reste aussi, vous êtes bien équipé, bravo, bravo.
Je ne sais ce que j'ai fait pour en avoir une pareille.
Bah dis donc, vous avez de la vigueur pour un mort.
Dès que vous parlez de la mort, je me sens chez moi. J'ai d'excellents rapports avec la mort.
Oui, je m'en doute, oui.
La mort est une des choses les plus calomniées dans le grand dictionnaire, l'encyclopédie de l'humanité.
Alors on vous laisse avec elle. Merci Romain Gary, à plus tard.
À plus tard.
Christine Gonzalez, merci, la jongleuse d'archives, magnifique.
Super.
Ouais, bravo, on y était. Ouais.
Extrait de Radioscopie au micro de Jacques Chancel en 75 et 78.
Oh, j'avais jamais entendu la voix de Romain Gary.
Le franc-parler non plus.
Le franc-parler non plus, merveilleux, n'est-ce pas, David
C'était
Diop.
Magnifique. Ouais.
Merci Christine Gonzalez, on peut réécouter et revoir d'ailleurs sur franceinter.fr et sur notre page Facebook Par Jupiter, ainsi que les autres chroniques. David Diop, vous avez donc remporté quand même le prix Goncourt, je l'ai dit, c'est le Goncourt à Biarritz,
oui.
Décerné 10 minutes avant le vrai, à Paris. Car il existe en France autant de prix littéraires qu'il existe de sortes de fromages. D'ailleurs, il existe un prix littéraire du côté de la Savoie, certainement, parce qu'il offre au lauréat son poids en reblochon, ça sera peut-être pour vous, attention. Ah. Et cette semaine, les plus prestigieux ont été remis, hein. Donc il y a Médicis, Renaudot, ouais. Interallié, Goncourt, on pourrait dire les plus médiatiques aussi, évidemment. Alors, retour sur les quelques secondes qui précèdent l'annonce du prix Goncourt, attention.
Roquépine a recollé au peloton, elle est dernière. Elle en a passé un, elle en a passé deux, elle en a passé trois, elle en a passé quatre, elle en a passé cinq, elle vole là-bas, c'est époustouflant! Roquépine entre en tête dans la ligne droite poursuivie par Querido 2. Roquépine, le driver, lève la cravache. C'est l'attaque de Querido 2 contre Roquépine. C'est l'attaque de Querido 2 qui va malheureusement. Querido 2 a battu Roquépine. Oh là 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 là. Roquépine est battu.
Voilà comment Léo Zitrone commente le dépassement de David Diop par Nicolas Mathieu au Goncourt. Ça s'est passé mercredi. Alors, l'histoire est souvent racontée par les gagnants. Alors, vous êtes loin d'être perdant, David Diop, parce que quand même être finaliste du concours, c'est quand même le Graal.
Des quatre grands prix.
Ouais, c'est quand même formidable, et dans plusieurs grands prix, effectivement. Mais alors, donc, comme on a toujours l'écho de celui qui a gagné, on aimerait avoir l'écho de celui pour lequel ça s'est joué à un cheveu qui aurait pu, c'était 50-50. Souvent, le gagnant dit « Oui, j'étais chez moi, tranquille, puis j'ai reçu un coup de fil de pivot, blablabla. » Vous, ça s'est passé comment, alors?
Moi, j'étais pas chez moi. J'étais pas tranquille.
J'étais avec Bernard Pivot.
Non, pas du tout. Mais bon, je vais dire toute l'estime que j'ai pour Nicolas Mathieu, que j'ai rencontré pendant le périple que nous avons fait à plusieurs avec plusieurs auteurs en France. Pour,
vous avez fait une itinérance aussi, vous. Hein,
oui, c'est une itinérance romancière auprès des lycéens des différentes villes en France, à Rennes, Lyon, Marseille, Paris, Toulouse. Et j'ai rencontré quelqu'un que j'apprécie, donc je suis content pour lui.
Et nous le recevrons d'ailleurs bientôt, hein, voilà. Nicolas Mathieu.
Et bon, voilà, j'avais pas de stress, si ce n'est un stress peut-être imposé par le contexte, la solennité du moment.
Ouais.
Mais je suis très tranquille et très heureux. Comme vous l'avez dit, être finaliste de tous ces prix, c'est pour moi extraordinaire parce que ça me permet d'avoir beaucoup plus de lecteurs. Un écrivain, bien, il aime être lu.
Et ça se passe comment au niveau, c'est aussi une espèce de machine médiatique. Donc, est-ce qu'il y a des journaux, des télévisions qui vous appellent en disant « on voudrait vous avoir réservé votre jeudi matin, votre jeudi après-midi,
etc. » Oui, ils disent « on voudrait, mais moi je dis « ben non, ça ne va pas être possible. »
Et après, ils vous appellent pour vous décommander ou ils ne prennent pas la peine d'appeler parce que vous avez déduit que c'était l'autre?
Vous voulez dire après les résultats?
Oui, vraiment à chaud comme ça, le jour même ou le lendemain?
Non, pas du tout, parce qu'il y a quelqu'un qui prend, que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est Géraldine, bon, je dis que son prénom, qui organise tout ça. Et
Donc vous êtes préservé de tout ça.
Et quand des gens arrivent à avoir mon numéro de portable, ça arrive, hein, ben je décroche plus. En fait.
On va donner à l'antenne hein, dans 5 minutes votre
D'accord.
numéro, bien sûr.
Il y a autre chose qui peut-être du coup va dans votre sens, c'est-à-dire qu'il y a une énorme pression pour le roman d'après du vainqueur du concours. Peut-être pour vous, vous avez déjà augmenté le nombre de lecteurs et ils vont aimer ce livre parce que qu'à voir Charline arriver ce matin en faisant des petits bons, je peux vous dire que c'est la meilleure critique. Vous êtes peut-être plus détendu vis-à-vis de la suite des choses, vis-à-vis des éditeurs, vis-à-vis du temps que ça peut mettre ou des choses comme ça.
Oui, en fait, j'ai dit ça un jour sous forme de boutade. J'ai dit, avant d'écrire, j'ai appris à vivre. Donc, je retourne à ma vie, et ma vie professionnelle, ma vie familiale. Et j'ai pas le sentiment que tout repose sur l'écriture. C'est un luxe pour moi, en fait, de prendre le temps d'écrire. Et c'est vrai que peut-être s'il y avait eu quelque chose de phénoménal, comme un grand prix, ça aurait pesé. Mais réflexion faite, je me dis que non, puisque je suis arrivé, je suis pas frais et moulu, hein, vous voyez, je suis pas neuf en fait. Et ça me permet de prendre du recul et peut-être d'envisager ces moments où je vais commencer à écrire tranquillement et c'est du plaisir.
Une idée de choses que vous aimeriez traiter ou à quel moment vous allez vous réasseoir et coucher des mots sur du papier ou pas du
Même
tout
une
ou c'est peut-être
course,
déjà
hein,
fait en fait
de course.
J'ai plein d'idées en fait j'ai plein d'idées ce qu'il y a c'est que j'ai pas le temps pour l'instant de m'y mettre.
Car vous êtes professeur de littérature à l'université de Pau, je le rappelle.
Oui.
Vous serez à Brive demain, allez le saluer. Si
oui,
vous êtes de passage.
Au salon du livre de Brive. Ouais. Ouais.
Et j'ai dit ça c'est une autre boutade, mais je m'en permets beaucoup là aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est l'ambiance de l'émission.
Oh, c'est un peu trop.
Lâchez-vous, David.
Personne n'écoute.
Il y en a qui disent que voilà, il y a à 50 ans, ce qui est mon âge, enfin je. Je me rajeunis de 2 ans, qui disent, voilà, le but de leur vie, c'est... Enfin, ils ont réussi leur vie quand ils ont une Rolex. Moi, c'est d'avoir un bureau. J'ai un bureau depuis 2-3 ans et je suis très heureux de pouvoir avoir ce lieu pour écrire. Et voilà, c'est quelque chose qui est pour moi.
Mais c'est un bureau
essentiel.
Rolex ou pas?
Non,
je comprends pas la marque
il est,
du mobilier.
Il est meublé chez un Suédois.
Oui. Et vous allez rentrer donc à Pau devant vos étudiants pour donner vos cours de littérature et de littérature ancienne, riche de cette expérience et d'avoir croisé tous les plus grands écrivains contemporains.
Exactement. Et voilà, je les salue, mes étudiants d'ailleurs. Je leur dis. Je reviens.
On vous rend David Diop. Et on vous envie de l'avoir comme prof de littérature à Pau. Isabelle Sorante, votre lecture de Frères d'armes parue au Seuil.
Alors bon, c'est bref. Je vais essayer de condenser tout ce qu'a suscité en moi ce magnifique roman. En fait, toute chose est double. C'est quelque chose que dit Alpha Ndiaye. Donc Alpha, c'est le héros de ce roman Frères d'âme. Toute chose est double, dit Alpha, en parlant de ce monde où tout ce qui vit porte déjà en lui-même sa propre destruction, où tout et tous désirent et redoutent cette alliance des opposés que William Blake appelait le mariage du ciel et de l'enfer. Donc cette ambivalence passionnée et destructrice, c'est à la fois celle de votre héros, David Diop, et celle du monde infernal dans lequel il se trouve plongé. Et ce mot-là, héros, quand on y pense, il est comme taillé sur mesure pour Alpha Ndiaye, votre personnage. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on emploie plus volontiers des mots comme narrateur ou protagoniste pour parler des personnages d'un roman, comme si les héros antiques, ils préféraient se réincarner dans les jeux vidéo ou dans les séries Netflix. Mais Alpha Ndiaye, c'est bien sûr le narrateur de sa propre histoire et c'est d'abord un héros. Alors, pour commencer, c'est un héros de guerre puisque le roman, on l'a dit, se déroule durant la guerre de 14. Un enfer donc où se trouvent plongés deux tirailleurs sénégalais, Alpha et son meilleur ami, celui qu'il appelle son plus que frère, Madame Badiop. La scène inaugurale du roman, vous l'avez dit Charline, hein, c'est l'agonie, la longue agonie de Madame Ba sur un champ de bataille. Donc Madame Ba a été éventrée par une baïonnette, ses boyaux lui sortent du ventre. Et trois fois, il supplie Alpha Ndiaye de l'achever. Et trois fois, Alpha Ndiaye va refuser. Et d'emblée, avec ces trois supplications et ces trois refus, on est plongé dans un monde mythologique. L'histoire d'Alpha et de Madame Ba, elle se déroule dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, mais aussi durant toutes les guerres. Elle convoque la magie occulte de tous les rites guerriers, puisqu'à l'issue de ces trois supplications et de ces trois refus, Madame Ba meurt et Alpha est transformé à jamais. Ou plutôt, Alpha va commencer à subir une série de transformations étranges et tragiques qui constituent la dynamique du roman. Alpha commence donc par se transformer en héros de guerre. Il devient le genre de guerrier que ses camarades vénèrent, que son capitaine veut faire décorer. Un héros capable de, vous dites, sortir en hurlant des entrailles de la terre, dans une image qui est très charnelle et violente. Il sort en hurlant des entrailles de la terre pour tuer. Sauf qu'Alpha ne se contente pas de combattre. En fait, il devient de plus en plus cruel. Il coupe les mains de ses ennemis, qu'il ramène comme des trophées accrochés à leurs fusils. Et là, vous écrivez, « Je rapportais toujours à la fin de la bataille, dans la nuit noire ou la nuit baignée de lune et de sang, un fusil ennemi avec la main qui allait avec, la main qui l'avait tenu, la main qui l'avait serrée, la main qui l'avait nettoyée, la main qui l'avait graissée, la main qui l'avait chargée, déchargée et rechargée. » Alors en vérité, Alpha est traumatisé par la mort de Madame Ba et il éventre ses ennemis avant de leur couper la main. Et vous décrivez ces scènes de, je dirais, de mise à mort. Et il ne les éventre pas pour se venger, mais pour pouvoir faire pour eux ce qu'il n'a pas pu faire pour son ami, à savoir abréger leurs souffrances et les achever. Et à force de le voir revenir couvert de sang avec ses trophées, eh bien même ses camarades finissent par avoir très peur de lui. Et le capitaine va envoyer Alpha Ndiaye à l'arrière pour décompresser. Et un petit peu, vous le dites, par jalousie, parce qu'il a envie que le seul fou de guerre sur cette scène, ce soit lui. Et c'est dans un hôpital que Alpha va se souvenir de sa jeunesse dans le monde d'avant la guerre. C'est une jeunesse passée dans un monde magique et proche de la nature qui est aussi irrémédiablement disparue que son ami Madame Ba. Et vous savez que la guerre de 14-18, ça a été une charnière pour notre modernité. Par exemple, je fais une petite parenthèse, dans les plaques commémoratives, Eric Hobsbawm, l'historien, dans Une brève histoire du XXe siècle, écrit que pour la guerre de 14, on avait encore les plaques avec tous les prénoms, en fait. Et après, à partir des bombardements de la fin du corps à corps, à partir de la Seconde Guerre mondiale, les plaques sont devenues, bah voilà, on a rajouté par-dessus les plaques de la guerre de 14, c'était souvent au même endroit, et il n'y avait plus les noms un par un. On va dire ici, il y a eu des morts. On tombe dans l'anonymat. Et en réalité, Alpha, il est presque un petit peu le messager de ce changement de monde et de ce basculement. Et en même temps, il va trouver une façon de conserver le monde ancien à l'intérieur de lui, qu'on ne va pas dévoiler ici, parce que c'est un roman magique, avec des couleurs alchimiques. Il y a, on va dire, des couleurs qui sont la nuit noire, la lune, le sang. Il y a aussi le bleu clair de l'œil ennemi, donc une quatrième couleur qui se rajoute aux trois couleurs claires. Classique. Et les transformations du héros sont doubles, exactement comme sont doubles toutes les choses de la vie au cœur des ténèbres. Elle relève à la fois de la folie, parce qu'on peut le lire dans un angle presque psychanalytique. Tout à l'heure, vous avez parlé de suivre le flux d'une conscience, mais ça relève aussi de la magie, de la grande magie qu'on va trouver dans les récits anciens grecs, qu'on trouve dans les récits, moi, que me racontaient mes grands-parents en Sicile. Donc, c'est la grande magie universelle, la magie de la guerre et de l'amour. Et Alpha Ndiaye, c'est le fils d'un vieux sage et d'une belle nomade Peul, donc il est déjà au croisement de deux mondes. Il est au croisement d'un monde sédentaire et d'un monde qui passe, mais son parrain pourrait très bien être le capitaine Kurt de Joseph Conrad dans Au cœur des ténèbres. Et moi, à la fin, je pensais aussi à la fin, à la danse macabre, à la fin du septième saut d'Ingmar Bergman. C'est un guerrier qui est le parent de tous les guerriers du monde. Alors si le mariage du ciel et de l'enfer ne vous fait pas peur, eh bien il faut absolument que vous lisiez Frères d'âme, le roman magnifique de David Diop.
Merci Isabelle Sorrente pour cette lecture. Et donc je rappelle que votre roman est paru au Seuil. On n'aura malheureusement pas le temps d'évoquer le troisième sujet, mais vous l'avez d'une manière abordée, Isabelle Sorrente, en expliquant effectivement que sur les monuments de la guerre 14-18, il y a les prénoms, contrairement souvent à 40-45. Et ce sujet, je vous renvoie aux Parisiens aujourd'hui en France, où qui explique qu'il y a beaucoup plus de Mohamed que de Martin. Et dans ce livre, il y a notamment Alpha et les tirs ailleurs sénégalais. David Diop avec nous. Et qui est entré dans ce studio, Alex ?
Vous avez perdu le troisième sujet, mais vous n'avez pas tout perdu. Vous avez droit à une chanson de Frédéric Fromet qui est derrière vous. Et ça, c'est un coup de bol unique. Ça n'arrive que le vendredi pour terminer la semaine. Il Bonsoir. Est là pour nous chanter l'actualité. De quoi allez-vous nous chanter, Frédéric ?
Eh bien, une question. Pourquoi L214, dans sa énième vidéo tournée dans un abattoir, n'a pas pensé à solliciter Gilbert Montagnier ?
On va saigner les vaches, les moutons, on va saigner. Naf naf le cochon, on va saigner. Le petit agneau, on va saigner. Oui mais c'est du bio quand c'est vivant. C'est très rigolo quand le boyau pend et qu'il est tout chaud et qu'on entend gueuler comme un veau. On va saigner dans un abattoir, on va te zigouiller à l'abri des regards, hormis quand c'est filmé. Je veux découvrir tes viscères, je veux t'étriper. On va saigner, ça va gicler, ça va éclabousser. Jack l'éventreur était un petit pédé. Je vais te dépecer en tourne d'eau, comme quoi la mort c'est beau. Oh, 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 oh. On va saigner, noireau des blanchettes, on va saigner. Marguerite, Rosette, fais pas ta pleureuse. Tu vas couiner telle une chanteuse de télécrochet. Alors à quoi bon jouer les chochottes pour un cochon, gazé à l'azote pour un mouton, conscient qu'on dépiote. On va saigner dans un abattoir, on va te massacrer, parce qu'on aime les bêtes, surtout dans nos assiettes. Je veux découvrir tes côtelettes à coups de machette. On va saigner, ce sera pas moi, je vais déléguer à un pauvre gars dont c'est le sale métier. Combien d'entre nous boufferaient du gigot si nous devions jouer les bourreaux. On va saigner dans un abattoir, quelqu'un va t'égorger, te pendra un crochet par une patte arrière. Je connais des gens qui paieraient pour ça à la fistinière. On va saigner, t'arracher la tête, te t'électrocuter, te perforer le crâne pour plaisanter. Entre quatre murs, il n'est pas question que l'on nous voit, sinon on risquerait l'interdiction. de la peine de mort dans les abattoirs.
Voilà.
Merci beaucoup Frédéric Fromet.
On rappelle les sponsors de Frédéric Fromet, Justin Bridou, Charal et Père Dodu, bien évidemment.
Surtout Père Dodu. Vous jouez ce week-end ?
Oui, à Lamballe dans les Côtes d'Armor.
Oh, oh dites donc. Non, Isabelle se rend, l'auditeur doit savoir.
Vous êtes dans le coin, c'est ça ?
Non, parce que j'avais été dans les abattoirs de Lamballe quand j'écrivais 180 jours.
Ah,
vous,
bah,
êtes, vous,
bien
vous êtes bien reçu, ouais, formidable. Et David Diop.
Je crois qu'il ne le savait pas.
Il y a toujours temps d'annuler. Ouais. David Diop, vous serez à Brive, vous partez demain matin pour aller signer, rencontrer les lecteurs et peut-être parmi vous, les auditeurs de France Inter qui viendront vous voir. David Diop à Brive pour Frère d'âme, magnifique roman paru au Seuil. À Brive, il y aura certainement aussi Clara Dupont-Mono et Juliette Arnaud qui signent leurs livres respectifs. Merci beaucoup David Diop d'être resté avec nous. C'était une joie et une joie de vous lire. Merci aussi à Christine Gonzalez, Isabelle Sorante, Pablo Mira, Alex Vizorek, Frédéric Fromet. Merci à toute l'équipe, hein, Alexia Lacour cette semaine, Sarah Masson, Fabrice Rivaud, Ramzi Assadi, Ramzouille pour les intimes. Anne-Sophie Ladonne à la réalisation, notre stagiaire Paul Plumet à la technique, Guillaume Roux et Kevin Pelot. Et on va dédier le mot de la fin à vos étudiants, David Diop, quand vous allez rentrer à Pau dans l'amphithéâtre de l'université.
Po, pa, la, po, 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 pa, la, po, po.